Voilà, bon après-midi à tous. Eh bien, dans quelques jours, je serai sur un autre continent. Donc, à partir du 15 novembre, je pars au Niger pour continuer à porter l'Évangile. Et beaucoup de choses ont été dites. Et comme elle a précisé, mon épouse, il y a des villages qui ne savent pas encore ce que nous allons annoncer, mais qui nous attendent. Et c'est là que l'on voit que Dieu prépare des cœurs qui n'avaient jamais entendu. Les générations passées n'ont pas entendu. J'ai entendu un jour un vieillard dans un village qui m'a dit « Aujourd'hui, on vous voit arriver et je connais tous ceux qui sont morts et qui n'ont jamais entendu ce que vous êtes en train de nous dire pour avoir la vie éternelle. » Et ça fait quelque chose au cœur et donc nous voulons aller là-bas pour eh bien, faire changer l'ignorance en la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons plus de 30 églises à nous occuper. Je ne suis jamais dans la même chaque semaine, mais il y a actuellement des serviteurs de Dieu gourmanchés qui commencent à être formés. Certains ont fait 4 années d'école biblique, mais il y a aussi d'autres qui ont été à une école de disciples que nous avons fait et qui commencent aussi à prêcher. Alors aujourd'hui, en 2011, nous avons plus d'aide, de gens qui travaillent pour le Seigneur que lorsque nous avons commencé en 2006 où il n'y avait personne. J'étais avec mon interprète pour prêcher l'Évangile et ce n'était pas facile d'aller dans tous ces villages et de vouloir porter l'Évangile à tous ceux qui le réclamaient. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, mais il y a encore beaucoup d'ignorance dans les villages qui n'ont jamais entendu. Alors vous priez pour cela et nous verrons encore la gloire de Dieu. Je souhaite que dans quelques mois, Dieu voulant, quand je reviendrai, je pourrai vous dire le résultat aussi de vos prières et de l'annonce de l'Évangile. Alléluia. J'aimerais parler dans le psaume 39, le verset 5, de certaines crises existentielles que traversent les êtres humains, même si en Afrique, ce n'est pas toujours les mêmes problèmes que nous, en Europe, eh bien, il faut se dire que l'on en revient tous au point central et fondamental. S'il n'y a pas le Seigneur, il n'y a rien. Il y a un vide, il y a un cœur qui cherche. Et donc, nous allons voir eh bien, certains passages de la Bible, puisqu'elle est inspirée de Dieu, tous ces passages relatifs à la vie et puis le remède aussi à la mort et à la peur de la mort. Nous lisons dans le psaume 39 et le verset 5, « Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Amen. » Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes devant toi pour être enseignés par le Saint-Esprit. C'est vrai que tout ce que nous voulons entendre, nous voulons même moi-même dire, ne soit pas de l'homme, mais ça soit de toi, Seigneur, et qu'il y ait des répercussions de l'écoute de ta parole, Seigneur, aujourd'hui, toi qui connais mieux que personne le cœur de chacun, eh bien, Seigneur, parle en conséquence pour les sauver, pour les bénir, pour raffermir tous ceux qui t'ont cru. Nous comptons sur toi et nous demandons que le Saint-Esprit conduise. Amen. La vie est fragile, nous l'avons constaté. Il y a des informations tous les jours qui nous viennent. Certains trouvent la mort sur la route, des accidents, des maladies. On raconte que dans le monde, chaque 2 secondes, il y a un décès. Et ça arrive, chacun son tour. La vie est fragile. Et le psalmiste dira, « Dis-moi quel est le terme de ma vie, que je sache combien ma vie est courte. » Alors, bien sûr, on peut parler de ceux qui ont une vie assez longue, mais disons que, en comparaison avec la vie dans l'éternité, la vie éternelle, la vie est courte. Regardez hier soir qu'il y a quelqu'un qui fait encore le marathon à 100 ans. C'est pas mal. C'est un Indien, un naturalisé anglais qui fait le marathon à 100 ans. Ah, 100 ans! Mais qui peut y arriver? Mais même si l'on vit 100 ans, la vie est courte. Parce qu'un jour, la vie, le temps, cédera l'éternité. Alors on ne comptera plus les années. Alors il faut penser, suis-je prêt pour affronter l'éternité? Il y a bien des témoignages aujourd'hui de la vie après la vie, des personnes qui ont expérimenté, soi-disant, une belle lumière, un long tunnel, beaucoup de paix. Je ne veux pas polémiquer, je veux m'en référer surtout à ce que dit la parole de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bon gré, mal gré, il faudra affronter la réalité c'est Dieu. Et Dieu a établi, juge des vivants et des morts, Jésus-Christ. Qu'on le ne veuille pas le croire, passe, certains vont vivre la vie comme cela, mais tôt ou tard il est dit que tout genou va fléchir devant lui. Toute personne devra confesser qu'il est le Seigneur, qu'il est le Christ, mais pour certains, ça sera trop tard. La vie est courte, la vie est fragile. Alors, il est bon de se rappeler que si nous n'est qu'un souffle, nous devons laisser les prétentions, nous devons laisser l'orgueil. Parce que souvent, quand on parle de Jésus dans la rue ou à des personnes qui sont à 1000 lieues de penser à lui, alors ils sont narquois, ils se moquent. Oh moi, j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'idées, je ne veux pas croire à ces choses-là qui sont des choses pour des personnes fragiles. Mais écoutez, le jour où nous affronterons le jugement, ça sera trop tard pour penser à la bonne chose, c'est-à-dire de se convertir à Jésus-Christ. Ma vie n'est qu'un souffle, la vie de tout le monde, de tous ceux qui sont prétentieux, qui sont orgueilleux aujourd'hui. De toute façon, on n'est rien, la vie est courte et fragile. Et il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Sans cesse agité. Et il faut le dire, que nous ne sommes pas sur cette terre comme sur une mer calme. Que de problèmes, que d'épreuves, que de difficultés. Je ne vais pas vous citer tous les faits divers dont nous sommes transfusés chaque jour, mais quand ça arrive à quelqu'un, que de malheur, que d'effroi, que de terreur. Parfois, quand j'entends ce qui se passe dans la vie de certains, oh, je me dis, mais comment même on peut tenir? Comment on a ancré le cerveau pour tenir devant de telles épreuves? La vie est sans cesse agitée, et puis un jour elle disparaît. Pourtant, le Seigneur a dit, je suis venu vous apporter la paix. Non pas comme le monde la donne, mais je vous donne la paix, que la paix soit avec vous. Alors, cette agitation du cœur, cette agitation, ces malheurs, Jésus peut les transformer. Il peut transformer le mal en bien. Et il ne nous demande pas d'argent, il ne nous demande pas d'essayer de le mériter, mais il nous dit, croyez-le, croyez, croyez en moi, et vous serez sauvés, et je vous donnerai la paix. Et la joie que j'ai, je veux que vous l'ayez aussi. Alors, si aujourd'hui quelqu'un a un cœur agité, un cœur malheureux, un cœur tourmenté, si même des cauchemars arrivent la nuit et que vous n'osez même plus vous endormir, venez, aujourd'hui à Jésus. Lui donne la paix. Un jour, les disciples sur une mer agitée ont dit « Nous allons mourir ». Ils eurent peur. Jésus s'est levé et il a dit au vent « Silence, tais-toi ». Et le calme est revenu. Alors ils se sont dit « Mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent, la mer ? Qui est-il ? Mais c'est Jésus ». Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes à un stade de non-retour, à un point irréversible, où vous vous dites que peut-être jamais la paix viendra, puisque vous avez expérimenté, vécu quelque chose d'irréparable apparemment. Jésus s'est levé pour chacun de nous, et il est capable aujourd'hui, comme il l'a fait en disant au vent, « Silence, tais-toi », il est capable de vous donner la paix. Amen. Quand il a vu la mer, qu'il a créé le ciel, la terre, enfin la mer, la terre, le sec, il a dit à la mer, tu iras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Alors, aujourd'hui, on peut comprendre que quand on remet notre vie entre les mains du Seigneur, même Satan, qui voudrait nous perdre, qui voudrait pourrir notre existence, qui voudrait mettre en notre pensée des pensées de suicide, Jésus s'est levé, et il a terrassé Satan pour que nous puissions vivre en paix, sortir de notre esprit toutes les pensées de destruction. Lui dit, si tu es agité, venez à moi, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Notre vie est provisoire, nos demeures sont provisoires. Ah, moi, maintenant, j'ai mes projets, je veux un chez-moi. Alors, j'ai un chez-moi, c'est très bien. Mais la parole de Dieu dit ceci, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Il a passé, voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Et le lieu qu'il occupait ne le reconnaît plus. » On laisse tout. J'ai vu des riches partir, les mains ouvertes. Alexandre le Grand, ce conquérant, a dit « Quand vous m'enterrerez de mon cercueil, laissez dépasser les mains et que je les ai ouvertes parce que je n'emporterai rien. » On laisse tout. Et pourtant, quand on voit comment s'affairent les êtres humains à chercher sur la terre à régner, la Bible dit, s'imagine que leurs demeures sont éternelles. Ils ne pensent qu'aux choses d'ici-bas. C'est vrai, on quittera tout, les maisons, les biens, la renommée, même si on est bardé de diplômes, même si on est une personne à succès, que l'on soit une star, people, que sais-je, on parle de nous, on va nous médiatiser et même on pourra mettre un monument à notre honneur ou appeler une rue d'une ville de notre nom. On laisse tout. Il a passé et même le lieu qu'il occupait ne le reconnaît plus. Ça fait drôle. C'est qu'il y a des personnes, s'ils revenaient aujourd'hui, ils sont défunts, mais s'ils revenaient aujourd'hui, le lieu ne les reconnaîtrait plus. On va tout laisser. C'est pourquoi il est bon de penser à l'essentiel. Et nous y arrivons. Nous y arrivons où il est écrit, « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Les jours, vous savez, ils passent. Ils passent à un tel point que je me suis amusé à regarder un peu. Si vous avez 20 ans, vous avez déjà passé sur la terre 7300 jours. Ça vous va? Si vous avez 40 ans, vous avez passé 14600 jours. Très bien, mais à quoi? Si vous avez 60 ans, vous avez passé 21900 jours sur la terre. Si vous avez 80 ans, vous avez passé 29200 jours. Si vous avez 90 ans, vous avez passé 32 850 jours sur la terre. Bon, c'est des chiffres. Mais Enseigne-nous à bien compter nos jours. Regardez à quoi passent les jours de certains êtres humains. Et là, le psalmiste dit, « Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que je les applique à la sagesse. » Qu'est-ce que la sagesse ? Cet homme avait dit, « J'ai bien ramassé, j'ai gagné, et je vais démolir mes greniers, je vais en construire de plus grands, et quand j'y aurai tout mis, je dirai, « Mon âme, tu as du repos, repose-toi. » Et puis, était-il sage ? Furtivement est arrivée une voix qu'il n'attendait pas. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pourquoi auras-tu travaillé ? Avait-il de la sagesse ? Il pensait même, en parlant à son âme, trouver le repos. Mais ce jour-là, il allait déménager dans l'au-delà. La sagesse se veut de prendre nos précautions pour sauver notre âme. Jésus l'a bien dit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Alors parfois, j'écoute nos politiciens, j'écoute des gens qui ont le verbe facile, des orateurs. On dirait que le monde, ils allaient le faire eux-mêmes, trouver les solutions. Mais même si apparemment on a pu briller dans un discours à vouloir changer le monde, rien n'y fera. Un jour, tout être humain, notre génération passera, et alors, et après. La sagesse se veut, Seigneur, je voudrais que mon temps aussi soit occupé à penser à toi, Jésus. Car si je perds mon âme, alors que on dira, cet homme, il a brillé sur la terre, c'était un savant, il a rempli des volumes comme ça, d'écrits, il a cherché, il a trouvé. C'est bien parfois, mais s'il s'en va dans l'au-delà, sans être préparé, à quoi tout cela aura servi ? Et même Bill Gates et tant d'autres qui soient riches, mais quand ils vont décéder, ils n'emporteront rien. Et celui qui a fait le possesseur, qui a inventé beaucoup de choses, est décédé. Et puis on dira, voilà, cet homme, il a inventé cela, il nous laisse cet héritage. Mais la sagesse, elle va plus loin. Et son âme, où est-elle aujourd'hui ? Et tous ceux qui sont surpris par la mort violente, qui ne leur laisse pas un seul instant pour penser à quoi que ce soit, eh bien, où sont-ils ? Où vont-ils ? Jésus est là présent et il veut nous sauver. Il a dit, je suis venu afin de vous donner la vie éternelle. Je suis venu afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis venu et celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il vivra quand même, il sera mort. Il veut dire, après la mort, vous irez au paradis. Dans cette gloire où le temps aura cédé à l'éternité et ça sera un bonheur sans fin avec Dieu. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours pour que je les applique à la sagesse. Vous savez, il y a des gens qui, comme vous, comme moi, et même avant que je connaisse le Seigneur, qui sont remplis de projets. Ça ne vous arrive pas ? C'est bien, de toute façon, la jeunesse, il faut que vous ayez des projets. Mais attention, cela n'empêche pas de penser à l'essentiel. Et voilà ce qu'il est dit. À vous maintenant qui dites aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville. Voilà. Nous y passerons un temps, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Alors, notre amour propre, notre orgueil prend un coup. Vous êtes une vapeur. Ah, vous dites, moi, maintenant, j'ai mes projets, j'ai mes idées. Très bien. Mais est-ce que Dieu le veut ? C'est important de consulter le Seigneur. Il veut guider votre vie. Il veut guider la jeunesse. Il est même dit, souviens-toi de ton Créateur, au jour de ta jeunesse, avant que le malheur vienne, où tu diras, ah, de ma vie je n'y prends plus plaisir, parce qu'il y a l'âge des projets, et après il y a l'âge des souvenirs, et c'est important maintenant, eh bien, de se dire, Jésus, je ne sais pas où j'irai, je ne sais pas pour la jeune fille, quel est le mari que je rencontrerai pour le jeune homme, quelle est l'épouse que je rencontrerai, mais Seigneur, c'est toi qui dois vouloir. Je remets mon destin, mes destinées sont dans tes mains. Je remets ma vie entre tes mains et lui va vous guider. Lui va vous aider. Cependant, que de gens ont mis par-dessus bord les idées de mettre Dieu dans leur foyer, de mettre Dieu dans leurs affaires, dans leur profession ou dans leur propre vie et que, malheureusement, de fiascos, que de naufrages, que de tristesse, eh bien, le Seigneur dit aujourd'hui, tout est récupérable. Si tu te tournes vers moi, si à partir d'aujourd'hui tu me consultes, tu me pries et je te montrerai la marche à suivre, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai, je te montrerai la voie. La vie, c'est ça, parce que si on ne se laisse pas guider, on peut dire, moi j'ai des projets, je vais réussir. Des fois, c'est l'échec, mais avec le Seigneur, c'est la grâce. Voyez-vous, la parole de Dieu dit ceci, cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? Aujourd'hui, on écoute les uns, les autres. Malheureusement, il y a des personnes influençables qui sont pilotées par celui qui a parlé le dernier. On écoute et on dit, oh lui, il m'a convaincu. Il y a des gens qui tombent dans des sectes. Ils tombent et on se dit, mais comment se fait des gens intelligents comme ça, ils sont tombés entre les mains de gourous qui leur ont ruiné les foyers, qui leur ont violé les enfants. Il y a des personnes qui se sont confiées corps, âme, esprit à des hommes. La parole de Dieu dit, cessez de vous confier en l'homme. Je n'écouterai que ce que Dieu dit. C'est écrit dans la parole. C'est important. Pierre l'a dit. Je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Et que de personnes, eh bien, ont gâché leur vie parce qu'ils ont écouté, ils se sont laissés influencer par les hommes et ils sont partis dans des voies de garage, dans des voies de dérive. Et puis, la parole de Dieu nous avertit que même se confier en soi, c'est trompeur. Le cœur de l'homme est trompeur. Qui peut le connaître ? Des fois, on a un pressentiment, une idée. On se laisserait guider un peu par nos sensations. Attention, le cœur est trompeur. Le seul qui dit la vérité, c'est la vérité, Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va à Dieu que par moi. Bien sûr, Jésus a été homme, parfaitement homme, Dieu en même temps. Mais quand on s'arrête et que l'on apprend que c'est lui qui a raison, quand on l'écoute, on a tout gagné. Quand on écoute son cœur, quand on écoute les autres, quand on se laisse influencer par la foule, eh bien, il n'arrive que des malheurs. Vous savez, quand ça a été l'heure, eh bien, de Dieu, pour que Jésus donne sa vie, il est montré que la foule s'est entendue dire, vous répondrez tous qu'il soit crucifié. Et voilà que les gens ne savaient même pas pourquoi ils criaient, mais ils criaient quand même qu'il soit crucifié. Pourquoi, comment, ils ne savaient pas, mais il y avait des fortes têtes. Des gens, vous savez, avec, comme on dit aujourd'hui, un grand charisme, grande personnalité, qui écrase les autres, vous direz tous qu'ils soient crucifiés et que l'on relâche Barabbas. Que de gens sont influencés par l'homme. Aujourd'hui, écoutez Dieu. Dieu est le créateur de l'homme. Dieu est la science, Dieu est l'intelligence, Dieu est le tout-puissant, omnipotent. Et quand vous l'écoutez, vous avez raison. Amen. Puis, vous savez, on voudrait parfois rallonger sa vie. Et il y en a qui s'y prennent mal. Qui de vous, dira Jésus par ses inquiétudes, peut ajouter encore une coudée à la durée de sa vie, c'est-à-dire même cet espace de mesure. Qui peut rallonger sa vie en s'inquiétant? Le Seigneur le sait, on va être sur la terre comme des orphelins, livrés à nous-mêmes. Le diable, c'est le prince de ce monde de ténèbres, c'est lui qui essaye de détourner les gens de la vérité. Et alors, c'est là que l'on se dit, eh bien, qui va pouvoir nous donner la vérité? Et alors, on s'inquiète, et on s'inquiète, et on s'inquiète, mais rien n'y fait. Alors le Seigneur dira, ne vous inquiétez de rien. Et ça fait plaisir, parce que on ne trouve pas facilement ni même des solutions à la crise économique de l'Europe et du monde, et on pourrait s'inquiéter. Mais ceux qui ne s'inquiètent pas sont les enfants de Dieu, parce qu'ils ont un Père qui sait ce qu'il fait. Il connaît tout, il voit tout, il connaît tes besoins, il connaît tes besoins ressentis, il connaît tes besoins sociaux, il connaît tes besoins sentimentaux, physiques, professionnels, il connaît tous tes besoins et il dit, ne t'inquiète pas, parce qu'en t'inquiétant, au contraire, tu ne vas pas rallonger ta vie, tu vas la raccourcir. Mais il y a la solution derrière. C'est bien beau de dire, ne t'inquiète pas. Mais le Seigneur a dit, écoute, regarde un peu les oiseaux. Tu les vois s'inquiéter? Ils savent trouver à manger, je les nourris. Il chante, mais même, il est repris ce passage plus tard, où l'apôtre Paul dira par le Saint-Esprit, « Ne vous inquiétez de rien !» Un mot très fort, une phrase très forte, vous devriez la conserver dans votre cœur comme une clé. « Ne vous inquiétez de rien !» Comment est-ce possible? Alors que les taux se resserrent dans notre monde, on ne sait pas ce que l'on va devenir. Mais le Seigneur dira, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence va garder vos cœurs en Jésus-Christ. » Qui de vous, par ses inquiétudes, a arrangé quelque chose? Parfois, excusez l'expression, on a pourri la vie des autres par nos inquiétudes. On est devenu bougon, on a maugréé, on a parlé mal, on s'est mis en colère. On a rendu la vie impossible aux autres par ses inquiétudes. Mais le Seigneur dit, écoute, aujourd'hui, tu vas commencer à me présenter toutes tes inquiétudes, tous tes problèmes, je vais m'en occuper. Aie foi en moi. Et si vous avez foi, vous allez voir la gloire de Dieu. Enfin, il est dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Ah, on n'a pas envie facilement d'aller à un enterrement, c'est vrai. Mais le contraire aussi, voyez, quand on regarde un peu, on écoute, on voit, on est dans une société axée sur le plaisir, le loisir. Le bien-être, toujours le bonheur, mais à quel prix? Chercher un paradis perdu sur la terre. Les gens ne pensent que, eh bien, à la fête, à être heureux, mais de la mauvaise façon. Et le Seigneur dira que, souvent, quand on voit quelqu'un qui décède, qui s'en va, qui nous quitte, même à un âge où l'on ne comprend pas, on prend la chose à cœur. Et on se dit un jour, de toute façon, ça m'arrivera moi aussi. La mort n'oublie personne. Elle a un jour de rendez-vous pour chacun de nous. C'est pourquoi il faut prendre les choses à cœur. Et ne pas dire, quand on regarde nécrologie, eh bien voilà, eh bien, telle personne, je la connaissais, elle est décédée dans ce village et tout ça. Mais il faut se dire qu'un jour, ça nous viendra. Il faut prendre à cœur. Quelqu'un a dit avant moi que celui qui est bien préparé à mourir est bien préparé à vivre. Et je ne suis pas en train de vous dire des choses macabres. Mais c'est vrai que quand on est en règle avec le Seigneur, quand on a Jésus comme sauveur, quand on est en paix avec lui, quand on lui a demandé pardon de nos péchés, mais la vie ici-bas, vraiment, c'est plus qu'un bonheur qui est recherché, c'est un bonheur certain, vécu à tout moment. Comme le disait quelqu'un, le bonheur ce n'est pas un but, mais c'est un chemin. Et chaque jour, on est dans le bonheur parce que nos transgressions sont pardonnées, parce qu'on a Jésus. Alléluia. Alors, quand on est bien préparé à mourir, on est bien préparé à vivre, je peux vous dire que ça, c'est vrai. Alors, pensons-y. Des fois, ce n'est pas la fête, des fois, c'est le malheur, mais on sait très bien que quand on a le Seigneur, on aura la gloire qui va s'ouvrir devant nous et qui sera sans fin. Mais alors, je vais terminer. L'homme ne connaît pas son heure. Pareil aux poissons qui sont pris dans le filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, le Fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. C'est quoi vivre ce peu de temps? On ne connaît pas son heure. On ne connaît pas la date du retour de Jésus. Mais voilà, le Seigneur dit, il faut que tu sois prêt. J'ai bien aimé cette parole de l'apôtre Paul qui disait, pour moi, vivre c'est Christ. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors qu'est-ce que la vie? Eh bien la vie, c'est Jésus. Il est venu vivre sur cette terre. Il a montré qui est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité à la droite de Dieu. Il vit éternellement. La mort ne l'atteindra plus jamais. Et il dit, celui qui vit avec moi vivra éternellement. Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Pourquoi? Parce que après cette vie, quand on meurt dans le Seigneur Jésus, on continue à vivre pendant toute l'éternité. Alors, parfois, on pourrait dire, eh bien, ça me fait peur, la mort. C'est quelque chose d'angoissant. Bien avant, le psalmiste disait au psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Oh, il est fort. Mais il faut continuer le verset. « Car tu es avec moi. » « Car tu es avec moi. » Je ne voudrais pas vivre une seconde dans la peau de quelqu'un qui n'a pas Jésus. C'est pourquoi je veux aller partout prêcher l'Évangile. Tant pis si on me traite de fou. Je ne prêche pas pour moi. Je ne veux pas être un gourou. Je ne veux pas être un fondateur de secte. Je veux que les gens, ils aient la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle, parce que c'est trop grave. Quand quelqu'un meurt sans Christ, il se retrouvera, comme on dit aujourd'hui à la mode, en comparution immédiate. Il connaîtra de suite son verdict. Il meurt. Et au moment du décrochage de l'âme et du corps, il va dans le séjour des morts, celui qui n'a pas Jésus. Et là, il commence à être en proie au tourment, nous dit Luc chapitre 16. C'est terrible, c'est terrifiant, ça paraît de la fiction. Aujourd'hui, comme on surfe sur le virtuel, on ne fait pas trop de différence entre les films, les mises en scène, les comédies, le virtuel. Mais la réalité est là, c'est que quand quelqu'un va décéder, s'il n'a pas Jésus, il va en enfer. Et là, les âges des âges vont se percuter, les siècles des siècles, et il n'y aura plus de fin. Le ver rongeur ne meurt pas en enfer, le feu ne s'éteint pas. et les tourments commenceront pour ne jamais plus finir. C'est grave de jouer avec son âme comme on peut jouer avec un violon. C'est grave, eh bien, de miser pour une existence qui passe si rapidement et qui est si fragile au détriment de la vie éternelle. Jésus est venu t'aimant tellement qu'à l'heure pathétique où il fallait donner sa vie, il souffrait tellement. C'était un si grand rendez-vous des ténèbres au jardin de Gethsémané qu'il a même dit, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté, un ange l'a fortifié à ce moment-là et il est allé jusqu'au sommet du Golgotha portant la croix. » L'a battu, giflé, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe, on lui a mis les clous dans les mains, dans les pieds. Et là, entre ciel et terre, Jésus, élevé, était en train de penser à toi, de penser à ton âme, de penser aux tourments de l'enfer. Et pendant que là, il agonisait avant de rendre le dernier souffle, il pensait que tu entendrais aujourd'hui ceci. Aujourd'hui, sauve ton âme. Aujourd'hui, repens-toi de tes péchés. Aujourd'hui, invoque-le tandis qu'il te veut et veut te sauver. Et sois sauvé maintenant. Délaisse le péché, délaisse les vices et les passions qui ne sont que la jouissance d'un temps qui passe. C'est artificiel, c'est fictif. Mais Jésus, il te dit, je suis mort pour toi, je suis ressuscité, je t'attends et je savais que tu entendrais aujourd'hui. Ne joue pas ton âme pour l'éternité, pour des reliques, pour des choses folles, pour des choses accessoires de la vie, mais viens à Jésus. Viens à Jésus maintenant. Viens, il est la vie et il te donne la vie. Et à ce moment-là, tu seras préparé à la mort, mais tu seras préparé à la vie jusqu'à qu'il te prenne avec lui. Et alors maintenant, Seigneur, lorsque tu fais entendre ta voix, chacun est devant un choix. Il est bien écrit dans la Bible, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il est dit, choisis la vie. Choisis la vie. Seigneur, je sais que le choix des autres ne m'appartient pas. Il m'appartient de porter ta parole. Mais je te supplie, Seigneur, de me donner ce moment où je veux prier, Seigneur. Je veux prier pour que, Seigneur, y soit gardé ceux qui se décident pour toi. Et pendant que je vais prier, si quelqu'un veut Jésus, si quelqu'un veut la vraie vie, la vie éternelle, vous levez la main et je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut lever sa main s'il n'avait pas Jésus? C'est le moment. Que Dieu vous bénisse aussi. C'était le moment. Le Seigneur le savait. Et maintenant, même s'il y avait quelqu'un qui n'a pas osé lever la main pour une raison qui lui est particulière, parce que tu vas dire, « Jésus, sauve-moi !» Aujourd'hui, pardonne-moi, je ne veux pas cette colère de Dieu un jour. Je ne veux pas l'enfer, je veux la vie éternelle, mais aussi un bonheur ici-bas. Grâce à toi, eh bien, le Seigneur va te sauver aussi. Seigneur, tu gardes tous ceux qui ont pris aujourd'hui la décision. Je les remets tous entre tes mains et suis certain que c'est maintenant qu'ils sont sauvés. C'est bien une des réponses immédiates, uniques en son genre, dans la parole de Dieu, où il est dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Et là, immédiatement, pendant qu'il t'appelle, te dise « Sauve-moi », tu le fais, je sais. Et je sais que tu as tout accompli. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et même s'il y avait quelqu'un qui souffrait, qui avait mal, une maladie, vous vous levez simplement à votre place. Nous allons prier avec foi dans le Seigneur Jésus. Et si vous le croyez, il peut vous guérir. Et même si ce n'était pas une maladie, soit un problème psychologique que vous n'arrivez pas à gérer, le Seigneur est capable de faire cela, de vous délivrer, de vous guérir, de vous donner ce que vous n'aviez jamais espéré. Levez-vous et on va prier pour vous. Que ceux qui sont dans tout ce besoin et tout ce que j'ai oublié de dire, vous pouvez vous lever et vous aussi prier. Et tous ceux qui veulent prier et qui ne se sont pas levés, priez avec foi, car c'est un moment, c'est le moment où le Seigneur agit. Ô Seigneur, merci d'avoir tout accompli en mourant sur la croix, en ressuscitant, en ayant tous les pouvoirs dans le ciel, sur la terre. Qu'est-ce qu'une maladie, même si c'était une maladie qui pouvait se dire incurable, orpheline, ou que sais-je, pendant que nous prions, Seigneur, toi, tu as vu le mal et tu l'as porté en tes meurtrissures. Nous demandons aujourd'hui l'annulation du mal. Au nom de l'annulation du mal et de la maladie par Jésus mourant sur la croix, Seigneur, qu'il soit totalement délivré. Et tous ceux qui ont d'autres problèmes, qui n'ont rien à voir avec des souffrances, des maladies, mais qui sont restés secrets, connus de toi, interviens, Seigneur. Les prodiges et les miracles sont pour nos jours. Au nom de Jésus qui est le même, soyez maintenant assurés que vous n'avez plus à vous agiter, à vous inquiéter. Vous n'avez plus à supporter le stress de la vie, comme si ce tourment devait cohabiter et faire avec toujours. Aujourd'hui, le Seigneur t'enlève ce fardeau et le crois toi-même. Crois-le et tu honores ainsi le Seigneur. Et lui-même, se sentant honoré par ta foi, il t'enlève ce fardeau et il te donne la paix qui dépasse toute intelligence. Et si même les situations te semblent figées quand tu reviens chez toi et que rien n'a changé, il y a une paix en toi qui dépasse toute intelligence et qui te dit quelque part, voilà, le Seigneur est intervenu. La promesse attend là, elle ne tardera pas et elle viendra assurément. Au nom de Jésus, merci Seigneur de nous avoir bénis. À toi la gloire. Amen.